Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer les conséquences de notre course effrénée vers la consommation. Pollution, conflits armés, exploitation d'enfants. Bref, la liste est longue. Par des gestes simples et des choix d'achat judicieux, le guide du consommateur, aux éditions du Sang de la Terre, donne le mode d'emploi pour l'alimentation, les cosmétiques, la déco ou encore les jouets. On y trouve plus de 300 adresses réparties dans l'Hexagone pour vivre au quotidien en respectant l'homme et la planète. Antoinette Paoli a rencontré l'auteur du guide, la journaliste Stéphanie Mariaccia, spécialiste de l'écologie et de l'économie alternative.
Pourquoi avoir écrit ce guide ?
Alors l'idée est née en 2003 en fait. Bon, moi j'ai fait des études d'écologie, donc j'ai rapidement été confrontée à des tas de problèmes. Personnellement, j'ai essayé de consommer de façon alternative, que ce soit en matière d'environnement, après que ce soit en matière également de soucis un petit peu plus social, on va dire, par tout ce qui est commerce équitable, etc. Et j'ai cherché, je me suis demandé s'il n'existait pas un guide comme ça qui pourrait un petit peu m'aider dans mes démarches, m'aider à trouver les bonnes filières. Et je n'ai rien trouvé, donc j'ai cherché moi-même. Donc ça m'a pris à peu près un an de travail pour aller chercher toutes les références. Donc dans ce guide, on trouve, parce que là c'est la remise à jour en fait du guide de 2003. Mais je vais dire, enrichi surtout au niveau du fond, au niveau des débats, etc. Parce qu'en 2003, c'était plus un guide pratique. Bon, c'est toujours un guide pratique, mais là il y a toute une partie quand même théorique qui a été renforcée. Et donc j'ai commencé à chercher dans tous les domaines, que ce soit domaine cosmétique, alimentaire bien entendu, textile, loisirs même, tout ce qui pouvait être alternatif pour en gros consommer au quotidien sans porter préjudice à la planète et sans porter préjudice non plus aux autres humains, donc tout ce qui est commerce équitable et commerce éthique.
Le guide, il est divisé en plusieurs rubriques. Donc, sur quoi vous avez mis l'accent spécialement ?
Dans cette nouvelle édition, au départ, je ne voulais pas mettre l'accent sur une rubrique en particulier. Mais je vais dire que c'est la rubrique qui est venue presque à moi. C'est pour tout ce qui est textile. Parce qu'entre 2003 et 2007-2008, il y a beaucoup de petites structures au niveau du textile dans des tas de régions, des gens qui ont relancé des activités de couture, de tout ça. Et ça c'est vraiment en 2003. Bon, il y avait quelques, parce que c'était plutôt l'inverse. Bon, toutes les boîtes textiles fermées en France. Bon, ça continue malheureusement, mais il y a quand même des tas de petites initiatives associatives, des fois initiées par des techniciennes, parce que souvent des femmes, des techniciennes elles-mêmes qui étaient donc dans la couture et tout ça, qui se sont retrouvées sans boulot et qui ont relancé des activités.
Est-ce que vous avez un exemple à nous donner?
C'est surtout une région, surtout le nord de la France. Il y a beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup d'artisans dans ce domaine, dans le nord de la France, et eux ont beaucoup évolué donc et recréé des activités.
Génératrices d'emplois, de revenus.
Bien entendu.
Et toujours dans le bio, utilisation de coton bio et également pratique équitable puisque c'est fabriqué en France.
Voilà, souvent se montent en coopérative. Donc voilà, c'est une structure qui permet une certaine équité. Et effectivement, avec des matériaux naturels, parfois des matériaux de récupération, ce qui est intéressant aussi. Et en 2003, il n'existait donc, comme je disais, pas de guide de ce type. Maintenant, on en trouve d'autres, et je trouve ça très bien. C'est vrai que ça se développe, et il y a des tas de gens qui prennent des initiatives, et c'est plutôt heureux.
En France, on a tendance à croire, on a beaucoup d'a priori sur le coût du bio, de l'alimentation bio, mais vous vous opposez fermement à ces a priori, je crois.
Tout à fait. En fait, c'est un faux problème, le coût du bio. C'est vrai que, bon, moi-même, je connais pas mal de gens qui ont des revenus très très modestes, qui consomment à 100% bio. Je crois que c'est tout un état d'esprit, en fait. Il y a aussi la notion de consommer autrement. C'est-à-dire consommer moins, mais consommer mieux. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que le bio, c'est pas seulement, on parle souvent de la santé, etc. Heureusement qu'on en parle, parce que je pense que sinon, il n'y aurait pas eu l'essor que le bio a eu maintenant. Mais il n'y a pas que la santé, c'est tout un ensemble, en fait. Le bio, c'est aussi faire en sorte de ne pas complètement pourrir les cours d'eau, les nappes phréatiques. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très global. Et donc, on peut consommer moins, consommer mieux. Après, bon, c'est vrai que c'est une habitude à prendre, quoi. Chez les gens qui consomment bio, déjà, il n'y a pas de gâchis en général. C'est vrai que la nourriture, c'est précieux. Quand on voit qu'en France, le pourcentage des revenus des ménages qui est consacré à la nourriture, des fois ça fait un petit peu peur parce que c'est secondaire voire tertiaire, alors qu'il faudrait que ce soit vraiment la préoccupation principale. Donc c'est vrai en plus pour tout ce qui est bio en général, moi je vais parler de tout ce qui est plutôt à base de farine, de choses comme ça, en général ce sont des farines complètes qui sont plus nourrissantes. Donc à la limite on consomme moins aussi naturellement parce qu'on est vite plus vite calé quoi. Et je pense notamment à ça par rapport à des réflexions que j'ai eues plusieurs fois de gens qui avaient des adolescents à la maison qui avaient tendance à vider 15 paquets de gâteaux par jour et eux se demandaient comment ils pouvaient les faire consommer en bio, quoi. Ça revenait pour eux trop cher. Les aliments de base sont plus riches, donc sont plus nourrissants.
Alors dans le guide, vous abordez la question un peu épineuse du bio vendu en grande surface et enfin dans la grande distribution.
Au départ, donc d'ailleurs dans mon premier guide en 2003, je parlais de certains produits qui étaient vendus dans certaines grandes surfaces et je les nommais carrément. Et puis bon, ben depuis, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Je pense qu'il faut reconnaître que si tout ce qui est un peu bio, commerce équitable est plus reconnu maintenant, c'est vrai que la présence en supermarché a aidé. Mais le problème, c'est que si ils ont monopole, au bout d'un moment, ils pourront changer les règles. Parce qu'il y a des tas de petites associations qui se battent depuis des années en fait pour promouvoir des produits, des productions justement plus saines, plus naturelles ou alors plus éthiques dans le commerce équitable. Bon, parce qu'il faut quand même savoir que plus de 80% des gens font leurs courses en grande surface. Donc si effectivement les produits éthiques ou bio, on les trouve plus qu'en grande surface. Bon, ben le monopole, les grandes surfaces vont voir le monopole et écraser les petites structures. Et le problème, c'est qu'après, voilà, pourront changer les règles. Et ça se voit déjà. On le voit déjà au niveau du label AB qui maintenant autorise 0,9% d'OGM. C'est sous la pression justement des grands, quoi, des gros, on va dire. Et bon, après, c'est vrai que le bio en supermarché, moi, me pose des fois quelques problèmes parce que bon, on parle toujours bio, 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 mais si c'est pour acheter, par exemple, des pommes bio qui sont produites à 1000 km de chez soi, suremballées, à la limite, il vaut mieux aller voir le petit producteur à côté, qui est peut-être pas labellisé bio, mais qui, au moins, ben déjà, il y a le transport en moins. Il suffit des fois de discuter avec eux pour se rendre compte qu'en fait, bon, ils sont quasiment bio, quoi, parce qu'eux-mêmes consomment leurs produits, ils n'ont pas envie de s'empoisonner non plus. Bon, quelque part, le fait que les grands, on va dire, s'approprient tout ça me gêne un peu. Et je pense aussi, notamment là, je vais plus axer sur le commerce équitable, parce que dans les petites structures de commerce équitable, il y a vraiment toute une politique de soutien, de projets sur le terrain, de soutien aux syndicats aussi qui se battent pour permettre aux gens justement de ne pas se faire écraser complètement. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des labels entre guillemets de commerce équitable qui fleurissent dans les grandes surfaces, etc. Donc en fait, le prix est juste un petit peu plus élevé je vais donner un exemple pour un café par exemple, le prix est juste un peu plus élevé et en fait la marque se fait la même marge. Et c'est le consommateur qui va juste payer le supplément parce que derrière, il n'y a pas toute cette politique de soutien aux gens, etc. C'est juste payer un petit peu plus le producteur. Mais si c'est que le consommateur qui paye un peu plus le producteur et que la marque se fait toujours la même marge, autant donner à une association caritative directement. Voilà, donc c'est voilà, ou une ONG.